للارم دو لامير. في العصور القادمة سيعود السوريون إلى أصل ما، سمكا كما تجري المياه الزرقاء فوقهم وتحتهم وحولهم وحتى حراشفهم، أو قد يعودون أحجارا.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du Mag qui commence. Aujourd'hui, je reçois Maïs Alrim Carfoul. Avec Maïs, nous allons parler d'exil, de mémoire, de poésie arabe contemporaine, de traduction et de ce que les mots peuvent encore raconter quand un pays devient lointain. Bonjour Maïs, bienvenue au Mag.
Bonjour Germain.
Dans une vidéo, Serge Pey raconte qu'il est devenu poète le jour où, avec son père, ils ont démonté une porte pour s'en servir comme table. Il dit que c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'on pouvait détourner les objets et qu'une porte pouvait devenir autre chose qu'une porte, en l'occurrence une table. Et que c'est là, pour lui, que la poésie a commencé.
Je suis devenu poète un après-midi d'enfance, lorsque beaucoup de monde devait venir déjeuner à la maison. Les gens sont arrivés, on ne les attendait pas, et la table était trop petite. Ma mère a dit à mon père, la table est trop petite. Et lui s'est approché de la porte d'entrée de la maison, l'a arraché de ses gonds et l'a posé sur des tréteaux. Mmh. Je l'ai aidé à enlever cette porte. C'est toujours plus facile d'enlever une porte, vous le savez, que de la remettre sur ses gonds. Et nous avons mangé pour la première fois sur une porte. Ce n'est pas pareil de manger sur une porte que de manger sur une table. Ma mère, on avait laissé la boîte aux lettres dans laquelle on avait mis l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre. Puis sur les papiers journaux du Patriote, comme on disait à l'époque, elle a posé les sardines. Et nous avons mangé sur la porte. Je suis devenu poète ce jour-là lorsque j'ai compris comment on pouvait transformer une porte en table. Quelques années après, alors que la maison était détruite, je suis allé revoir ma porte, ma table. Elle était dans un fossé. Je l'ai prise, je l'ai portée dans le champ, loin, et je l'ai enterrée. Voilà comment je suis devenu poète. Ce jour-là, je pense en enterrant la porte qui était devenue une table. C'est pas un poème que je raconte, mais ma façon d'arriver au poème.
Alors pour toi, quand as-tu compris que tu étais devenue poétesse ?
Moi, j'ai jamais compris que je suis devenue poétesse. Je pense qu'on se transforme en poétesse ou en poète avec le temps, et c'est une transformation qui ne s'arrête pas. C'est une porte qui devient une table, mais une table qui devient un repas qui devient un besoin de partage qui devient l'amour, après l'amour qui devient une tristesse. Par ce chemin-là, moi je comprends tous les jours que je suis associée à la poésie, mais sans vraiment reconnaître que je suis poète. C'est pas à moi de le savoir ou de le reconnaître. Après, il y a des moments dans la vie qu'on touche la poésie, qui c'est pas forcément, c'est vrai comme avec le poète Serge Pey, que c'était par des moments exacts qui sont liés à des facts, à des objets, à des éléments dans la vie. Et pour moi, des moments de la vie qui s'étaient peut-être associés à d'autres souvenirs qui m'ont déclenché cette sensation de poésie, sans vraiment donner cette définition à la poésie. Je ne savais pas que c'était la poésie. C'est souvent le cas quand je regardais un film, à la fin, j'avais un sentiment que j'avais envie de pleurer, sans comprendre pourquoi. Alors le film, c'était pas forcément triste. Cette beauté qui déclenche plein de sentiments, qui déclenche l'envie d'exprimer. Et comme j'avais pas les moyens dans le sens les éléments pour exprimer à part que les mots. Du coup, ça a commencé avec les mots. Et là, j'ai compris que peut-être j'ai le mot comme moyen. Et c'est comme ça qu'on l'appelle poésie.
Mais d'ailleurs, est-ce que ça change quelque chose de se dire poète ou poétesse, en fait? Est-ce que ça réduit un univers ou ça l'ouvre, au contraire? Parce qu'à mon avis, c'est pas si facile que ça de se dire, de se définir d'un coup poète, quoi.
Moi, j'ai hésité beaucoup avant de me définir comme poète, mais à un moment donné, il faut assumer pour savoir grandir. Ou grandir dans le sens poétique, grandir à l'intérieur, orienter un peu quand même la vie ou le regard vers ce chemin-là, vers ce registre-là. Et dans ce sens-là, la définition, ça gêne pas forcément la poésie. Au contraire, ça peut assumer quelque chose comme un métier, comme une reconnaissance des autres, reconnaissance aussi par rapport à ce talent ou ce don, et le travailler. Moi, à un moment donné, je pense qu'il faut travailler aussi la poésie, travailler, lire les autres, lire les critiques, avoir un regard critique sur ce qu'on a fait. Tout ça, si on a vraiment la stabilité psychologique et matérielle, financière, je veux dire, pour le faire. Parce que des fois, il y a certains poètes qui sont vraiment poètes malgré eux. Et ils n'ont pas forcément cette capacité, ce raisonnement de travail sur la poésie. Mais moi, comme actuellement, je ne sais pas si on va aborder ma vie professionnelle, mais comme j'ai fini une thèse en droit, j'ai soutenu ma thèse, j'ai travaillé, et là, je ne travaille pas. Du coup, j'essaie de profiter de cette période pour travailler la poésie de cette manière, donc, d'être poète professionnel un peu.
Donc le droit, ça t'éloigne des formes poétiques.
Après l'éloignement, quand on est très éloigné, on est proche. Quand on le sent, cet éloignement, et quand on a conscience de ses mesures, de son cadre, on essaye aussi de trouver de s'approcher d'autres univers qui nous sont chers. Et par cet éloignement, j'ai trouvé aussi d'autres moyens poétiques, d'autres routes poétiques pour le sentir. Le droit, quand je l'ai fait, en fait, j'ai écrit beaucoup quand j'ai préparé ma thèse. Parce que aussi la préparation de la thèse, c'est un long parcours qui est aussi intellectuel. Ça te laisse beaucoup de temps pour toi-même, travailler, réfléchir, douter. Et tout ça, ça m'a aidé à écrire, au contraire. Il y a un ami qui m'a dit, si tu finis ta thèse, écris une autre thèse pour que tu écrives plus de poésie. Donc ça m'a fait rigoler parce que c'est comme c'était échappatoire, mais aussi des fenêtres qui s'ouvraient par cette réflexion tout le temps, avec la recherche, les réflexions, et du sentiment aussi, d'isolement, des doutes, tout ça. Ça pousse pour trouver un moyen d'exprimer, de créer quelque chose de beau en attendant la finalisation d'une thèse, quoi, en droit.
Et c'est quoi le sujet de ta thèse?
J'ai fait à Toulouse une thèse en droit portuaire. Ça veut dire, en fait, j'ai un master en droit des transports. Moi, je suis syrienne. Du coup, j'étais boursière de la Syrie en 2010 pour venir faire un doctorat, un master et un doctorat et revenir enseigner en Syrie. Mais la situation a changé et j'ai continué ce chemin-là parce que j'avais toujours un doute, pas un doute, mais je veux dire, j'étais pas sûre de vouloir rester en France. Je me suis dit, au cas où que je voulais rentrer en Syrie, il faut finir ça. C'était quand même une contrainte parce que avec toute la situation qui était troublée là-bas, c'était pas évident de continuer ce chemin académique, tout ayant cette émergence de la poésie en moi. Et du coup, ça fait durer la préparation de doctorat que j'ai soutenue en 2023, pardon.
Ouais,
2023. J'arrive pas.
J'arrive pas. 2023, c'est pas mal.
الأرضية
C'est sûrement pas un hasard.
C'est pas un hasard, non, je pense pas. Il y a une raison poétique, je pense.
Oui,
une raison territoriale, je veux dire, dans le sens, moi je viens d'une ville méditerranéenne. C'est vrai que j'ai grandi à la campagne, ça veut dire que j'étais pas en face de la mer, j'étais à la montagne plutôt. Mais toujours le petit voyage, le premier voyage dans ma vie, c'était entre le village et la ville où il y a la mer. Du coup, c'était toujours une certaine ouverture très grande. Ça veut dire le chemin dans le transport en commun. À l'époque, nous, en Syrie, on a un transport en commun, je ne sais pas, il s'appelle service. En fait, je pense que c'est un mot français. Ça existe qu'en Syrie, je pense. Et ça veut dire que c'est un petit camion, une camionnette qui ramène les gens en ville pour travailler ou pour faire le shopping. Il y avait le port aussi. Je connaissais beaucoup de gens de mes connaissances, je veux dire, les amis de mes parents qui travaillaient au port. C'était un mot qui venait souvent. C'est quelque chose qui est comme les oiseaux de la région, comme les oliviers. Je veux dire, un mot qui existait dans ma ville. Le port. Quand j'ai commencé à avoir les réflexions existentielles, je suis partie à Damas pour travailler, pour faire des études. Ça veut dire que j'ai pas vécu non plus beaucoup à Tartous, ma ville. C'était toujours lié à l'enfance, ce voyage, cet aller-retour entre la mer et le port et le village. Surtout, j'ai grandi au village, en fait, à la campagne.
Peut-être aller au port, c'est comme, j'allais dire, s'émanciper, comme grandir, en fait. C'est-à-dire, Tartous, ta ville de naissance, ce serait un peu l'enfance. Et
oui.
Aller au port, ce serait devenir adulte, peut-être.
كل السوريين يريدون السفر إلى الخارج مثل أسماك تريد الهرب من المياه العفنة حتى ولو إلى الهواء ذلك الذي يغرق يا ترى هل يرى قعر السفينة من الأسفل كما نرى نحن السماء بينما نعيش
لا تقول عن قلبي قاسي وانو حجر لا تقول عن عقلي ناسي راح وهجر لا تقول عن ليلي طفى وانت القمر سكرت باب الليل وبطلت السهر
تي سيريان
Donc
t'as grandi une grande partie de ta vie sous le régime de la famille Assad. À quoi ressemblait la vie intellectuelle, artistique dans ce pays où le pouvoir politique était aussi verrouillé ? Est-ce que toi, même si t'étais jeune, t'avais un regard peut-être critique ou politique sur le pays dans lequel tu vivais ?
À vrai dire, quand on est sous un régime autoritaire ou dictature, si on ne fait pas partie d'une famille politisée, on prend pas conscience. Ça veut dire on est absorbé par le système. Il laisse des traces, des effets inconscients. Je pense que c'est dans sa conception, par exemple, de la liberté. C'est, chez moi, comme je l'ai pas vécu vraiment, ça, même ça, dans la joie, en fait, même dans la peur, tout ça, ça je parle de la période de l'enfance, jusqu'à 18 ans avant d'aller à Damas. En tant que scolaire, à l'époque, par exemple, dans les écoles de l'Assad, parce que vraiment, c'est un vrai système de Al-Assad. J'ai fait l'école les années 90 et là, c'était presque, on portait par exemple des vêtements militaires. pour aller à l'école. Et on avait une matière pour étudier aussi comment l'armement. C'était très théorique, mais ça reflète quelque chose. Ça veut dire qu'est-ce qu'on met dans la tête des adolescents, des jeunes, pour être juste. Je veux dire que j'ai grandi dans, des villes un peu modérées au niveau de tradition. Du coup, j'ai grandi dans des écoles mixtes, par exemple. D'autres écoles dans d'autres villes, c'était pas le cas. Donc, il y a aussi un côté qui était doux dans mon éducation. Je sais pas comment expliquer ça, mais je veux dire, mon éducation à l'école, c'était un côté très spontané, très lié au village, aux traditions qui sont pas très fortes, qui sont pas très strictes ou contraignantes, pour les femmes surtout. Et d'un autre côté, les traces d'un système autoritaire, parce que c'était à la fin, Hafez al-Assad était aussi un peu fatigué, malade, mais il était quand même comme un symbole. C'est-à-dire, il y avait des cahiers qui s'étaient distribués presque par un établissement public étatique, au prix pas trop cher, avec sa photo à la fin. C'était quelque chose, c'est comme un père en fait. C'est quelqu'un de la famille. Il est partout, les photos partout. Sans une vie politique, une vraie vie politique comme les années 80 ou les années 70. Parce que le Hizb al-Ba'ath, la partie basse, à la base, c'est émergé avec d'autres mouvements politiques. Et du coup, mon père, par exemple, il a vécu la partie basse, mais dans un mouvement politisé. Moi, j'ai vécu seulement les traces, les effets, avec des choses qui peuvent être bien, comme le système socialiste. Ça veut dire que les écoles sont gratuites, les hôpitaux sont gratuits, pour ne pas dire que tout était horrible. Mais par contre, avec une liberté politique qui n'était vraiment...
Sans opposition.
Oui, opposition. Dès que tu as un regard qui s'oppose à ce régime-là, tu risques 12 ans de prison ou de disparition. Et du coup, ça, si j'ai compris ça quand je suis allée à Damas, j'ai rencontré des gens qui étaient politisés, qui faisaient partie du parti communiste ou autre. Et là, j'ai compris que c'était... Non, c'était pas un père. Ça peut être aussi un père méchant, je veux dire. Aussi, pour préciser, tout ce qui est la côte, c'est, en fait, ils étaient un peu pour le régime Assad. Du coup, on ne parle pas beaucoup de l'opposition, sauf quelques personnes, parce qu'il y a une grande partie, beaucoup de personnes, en fait, qui s'étaient opposées à Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, et ils ont payé plus cher parce qu'ils étaient supposés soutenir plus, et là ils étaient rejetés par leur société, leur famille du foie, et aussi par les barreaux, je veux dire les barreaux qui comprenaient pas comment quelqu'un qui fait partie de la même confession qui s'appelle Alaouite pouvait faire opposition à quelqu'un qui est censé nous protéger. Du coup, tout ça, c'était un peu les idéologies qui s'étaient semées dans les têtes des gens.
Ouais, ça a verrouillé complètement, de toute façon, la société civile aussi, par la peur.
C'est, oui, oui.
T'es arrivé en France en 2010 ?
Octobre 2010.
2010. Et à ce moment-là, quelle place occupait la poésie
dans ma vie ?
Dans ta vie, ouais, quotidienne.
En arrivant en France, j'avais quelques images de la poésie. Je n'écrivais pas forcément, mais en fait moi avant, c'est-à-dire entre la période où j'ai fini mes études à Damas, j'ai fini un bac plus 4 en droit. Après je me suis présentée pour avoir la bourse et travailler à l'université, etc. Entre cette période et l'arrivée en France, j'ai commencé à avoir des questions sur l'objectif des études, de la vie, pourquoi j'ai fait de droit, est-ce que j'ai envie d'aller en France. J'avais des doutes en fait, j'avais envie de faire autre chose. J'ai commencé aussi à fréquenter des poètes ou des gens qui travaillaient dans l'art ou dans le théâtre, et j'ai senti quelque chose qui m'a poussé vers autre univers construit aussi de mots, mais que j'avais envie d'explorer davantage. J'ai commencé à écrire des petites choses, des histoires, et comme j'avais un peu de temps, parce que je faisais aussi des cours de français, des cours d'anglais, c'était un peu un temps pour moi. Mais finalement, c'était une chance de ne pas rater, de venir en France. J'avais un fantasme, je veux dire, imaginaire sur la France dans le, par les films, je pense, et dans la littérature. Et parce que j'avais pas mal des cousins aussi qui ont fait ça, qui ont eu des bourses et venir ici. Du coup, pour moi, c'était une envie de vivre que les autres, ils ont vécu, parce qu'ils nous racontaient des choses. Du coup, c'était aussi une autre envie de voyage. Comme j'ai fait plusieurs voyages, à mon avis, entre la ville, le village, la ville, la capitale, et là, il faut aller...
Encore plus loin, oui. Dépasser le port.
Voilà. Quand je suis arrivée, seulement j'étais comme une poète perdue qui devait faire de droit.
Alors, comme poète perdue, est-ce que c'est à ce moment-là où tu as fait cette rencontre aussi avec Serge Paye, c'était un hasard, c'était
En fait, moi j'ai rencontré, je suis arrivée à Toulouse en 2013 et j'ai rencontré Serge en 2014 ou 2015, je crois. On était du coup, ça fait, je suis restée quand même, j'étais pas à Toulouse, j'étais à Rouen et à Reims. Au nord, du coup, à l'époque, j'écrivais pour moi, j'écrivais beaucoup. Surtout quand j'ai eu des difficultés dans mes études, je pense que je me suis enfermée dans l'écriture, des écritures qui sont très hermétiques à mon avis, mais ça m'a aidée à un moment donné, mais surtout en arabe. J'ai jamais écrit en français. À l'époque, j'améliorais aussi mon français, ça m'a aussi formée en français à mon avis, ça veut dire tout passage. Les études, je pense, c'est un moyen fort pour apprendre la langue. Ensuite, j'ai déménagé à Toulouse pour commencer un autre master. Je passais souvent à côté de la CAF Poésie, mais j'ai jamais pensé à y aller. Mais en fait, c'est par le moyen d'un ami poète, un ami, je peux pas dire un ami, mais c'est un peu le poète syrien Adonis, que j'ai vu à Paris une fois. C'est un ami à Serge. Du coup, c'est lui qui m'a conseillé. J'ai essayé de contacter. Il m'a conseillé de venir dans un atelier d'écriture qu'il anime à la cave, mais surtout pour les étudiants qui font la lettre. C'est comme qui prennent un choix poésie dans leurs études. Mais il y a d'autres personnes qui écrivaient aussi, qui venaient. Et c'était une bonne occasion pour moi de découvrir le lieu. Je trouve qu'il est magnifique. Ensuite, de fréquenter d'autres personnes. Ils sont toujours des amis, en fait. Je suis contente que j'ai fait ça parce que j'ai vraiment des amis depuis cette année-là que je vois toujours. C'était un atelier, on dit un atelier d'écriture, mais c'était pas un vrai atelier d'écriture. C'était vraiment des conseils et c'était comme entendre quelqu'un qui parle de son passé poétique tout le temps. Et ça m'a impressionnée d'écouter ça en français, en live. Ça veut dire, et ça m'a donné le goût aussi d'écouter des émissions sur la poésie à la radio. Et en plus, des fois, il y a des poètes, des amis qui ramenaient leurs textes. Et ça m'a poussée à commencer à traduire, à essayer de traduire mes poèmes en français et proposer. Des fois, il y avait des propositions de correction. À la suite de ces ateliers, je commençais à lire à la CAF Poésie. C'était mes premières présentations de lecture en français ou en français en arabe, parce que des fois, j'étais accompagnée par quelqu'un pour lire en français. Du coup, je pense que c'était très important pour m'ouvrir à la poésie en France. Oui.